dans l'open mic. Next up on the mic. Open mic, open mic. L'open mic avec Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct. Open mic, open mic. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
10h01, je vous le dis tout de suite, j'ai eu 20 minutes de sommeil profond.
Oh là, ça va pas bien.
Ça va pas bien, pas tout. Dormez-vous bien, vous autres? Comment ça se passe, vous autres, votre sommeil? Je sais pas. Depuis que je travaille avec Pinchot le matin, on dirait que je dors moins bien.
Ah ouais, c'est ça la raison.
Ouais, je me
Pourtant, j'avais l'impression que tu pouvais peut-être dormir mieux.
Est-ce que je vais être à la hauteur?
Ah, c'est
avec
ça.
Avec Audrey.
Invité à la hauteur, Yann.
Je me pose tout le temps cette question-là depuis qu'on m'a annoncé que j'allais faire l'open mic avec toi. Mais oui, 20 minutes de sommeil profond, c'est pas assez, je pense.
Mais non, mais on avait déjà jasé ensemble. Ça te prend un genre de 3 heures de sommeil profond dans toute ta nuit.
Ouais.
T'es vraiment loin du compte.
Je sais pas si vous êtes un peu hypochondriaque débile comme moi, mais quand je vais lire, admettons, sur le sommeil profond, ça dit que le sommeil profond, en gros, là, ça peut servir à faire en sorte que le ménage de ton corps va être fait.
Mais mettons, de ta tête aussi,
du cancer,
là, tout,
tout
ça.
Affaire, là,
ouais,
là.
Ouais. Ouais. Ça te permet d'être un peu plus focus aussi le lendemain, dans okay. le sens où ta tête est plus clairée.
Mais quand je te parle d'hypochondriac, là, c'est... Tu sais, moi, là, je lis ça, là, OK? Sommeil profond, ça peut prévenir des cancers. Fait que tu comprends que là, j'ai juste dormi 20 minutes. Fait que techniquement, j'ai le cancer.
T'es-tu un gars de Dr. Google, toi? C'est ça que je comprends?
Ah oui.
Ah
ouais?
Ah, oui. Tu googles tout ce que t'as?
Ah oui.
Voyons, c'est ce qu'on dit de pas faire au monde.
Exactement.
Pour pas se faire du sang de cochon.
Moi, je le dis de pas le faire.
Ouais, mais tu le fais pareil.
Exactement.
T'es ce genre d'individu. En fait, ce que je dis, pas ce que je fais.
Ouais, 21 minutes précisément de sommeil profond, 4h25 de sommeil fondamental. 1h43 de sommeil paradoxal, puis ma blonde m'a réveillé 4 minutes cette nuit.
OK.
Ouais.
4 minutes, c'est pas long, hein, vous faites ça vite?
Non, c'est juste qu'il y a elle a le pied qui tourne.
Ah!
Je l'ai déjà raconté. Il y a du monde qui tourne d'un bord puis de l'autre là, dans leur lit. Là. Moi, je dors sur le dos puis je bouge pas. OK? Ma blonde dort comme en colimaçon. Là.
Ouais.
Elle pogne sa
en
doudou puis elle
se réveille
en burritos. Ouais. Là, ouais. Puis moi, je me ramasse pas de couverte. Mais il y a son pied qui tourne tout le temps.
Hey, c'est étrange, ça.
Puis ça, c'est pour... je pense que c'est pour se calmer ou s'endormir.
Ben c'est comme les gens... tu vois, mon chum, il a un tic, lui. C'est les rebords de tissu. Mettons, il va prendre un chandail ou une paire de shorts, là, quelque chose de même. Là. Puis les rebords de tissu, il va gosser avec ça, puis ça l'aide à s'endormir.
Les bords de
gosser
tissu?
Avec... Ouais. Il y en a que ça va être de tenir quelque chose.
Ouais.
Mais lui, il gosse avec les bords de tissu. Moi, je vais frotter mes pieds ensemble pour m'endormir souvent. Mais genre, je vais avoir le réflexe... Elle dit arc, mais sa blonde, elle tourne ses pieds de la nuit, tu sais.
Non, mais ça me dérange pas qu'elle tourne son pied parce que moi, je l'entends pas. Je sais que ça bouge un peu, je suis capable de m'endormir.
Ouais.
C'est quand c'est. Tu sais, vous êtes des filles, vous autres, vous avez des ongles de pied et des ongles de doigts, là. C'est quand son ongle, il commence à accrocher mon mollet.
Ah!
Là, j'ai l'impression que je vais me faire fendre en deux. Là.
Non, j'ai tendance à faire ça pour m'endormir, mais le résultat, je pense pas que... Moi, j'ai pas de manie, là. Je bouge pas, je ronfle pas. Je vais me tourner de bord dans la nuit quand je suis pas bien, mettons. C'est pas mal tout, là.
Ouais. Pour pas avoir des plaies de lit, mettons.
Ben, des plaies de... Tu peux le dire de même, mais en même temps, c'est juste que maintenant, t'es inconfortable tout le temps du même bord.
Ben, je
comme
sur le dos.
Ah oui, moi, je fais les quatre sens, là.
Moi, je m'endors sur le dos, puis je me réveille sur le dos. Je regarde le plafond. Ouais.
T'as pas mal dans le dos à un certain point?
Pas tout.
Moi, je me vire sur le ventre, le dos, gauche, droite. Je vais être malheureuse enceinte, là. J'ai besoin d'avoir mes quatre positions, mes quatre faces couvertes pendant la nuit.
Ouais. Je sais que ça va te surprendre, j'ai jamais été enceinte. Mais j'ai eu 2 enfants, fait que j'ai vu évoluer la même femme 2 fois enceinte. Puis effectivement, le dodo...
C'est difficile,
Au 8e mois, ça peut être paniquant, là.
C'est l'affaire qui me tanne, moi, quand je pense à fonder une famille.
Des fois, ça me tanne de ne pas être capable d'attacher mes lacets, là, parce que j'ai de la misère à me plier. Là. Mais une femme enceinte à son 8e mois qui essaie de dormir, ça doit être raide sur un méchant temps.
On a quelqu'un ici qui nous dit « Moi, je joue avec mes cheveux, où je prends une couette et je la tourne. » Oh, ouais, hein? Puis ça l'aide à s'endormir, de gosser avec ses cheveux.
Steve qui dit « Je suis comme Audrey, je frotte mes pieds pour m'endormir. »
C'est bizarre, hein? Pis le pire, c'est que tu t'en rends même pas compte. C'est pas genre, bon, je vais frotter mes pieds en vue de... C'est
mais,
pas ça pantoute,
mais
là.
Tu l'entends pas, c'est pas sec, donc.
Ah, mais non, mais regarde, j'ai pas les pieds secs. Qu'est-ce que tu fais avec tes pieds? Mes pieds sont doux, là.
Je sais pas, j'y touche à peine. Dans la douche, puis merci, bonsoir, c'est fini.
Mais tu sais, on s'entend, là, c'est pas genre... c'est juste, c'est à peine, là, c'est pas... tu te frottes pas les pieds ensemble comme si tu te frottais les mains, là.
Comme pour faire un feu, mais on va le voir.
pas ça, là. C'est très, très délicat. Je pense que c'est le fait de faire quelque chose qui finit par t'étourdir puis t'endormir. Il y en a que c'est avec la respiration. T'as ça probablement si ta montre intelligente, toi, justement. Là.
Oui, oui, il y a ça, des tests de respiration. Ouais, quand je l'ai acheté, je l'ai fait, ça n'a pas marché.
C'est vrai? Non, mais sur la mienne, sur une Fitbit, du moins, t'as vraiment une affaire de genre pleine conscience. Là. Puis là, tu peux mettre ça 2 ou 5 minutes avant de t'endormir, puis ça fait une vibration quand tu dois inspirer, puis 2 petites vibrations quand tu dois expirer. Fait que tu suis cette respiration-là, puis un moment donné, tu t'endors sans t'en rendre compte.
Ah, ouais.
Oui, c'est super bien fait. C'est ton poignet qui vibre, là. T'es couché, là, toi, là. Puis tu fais juste t'assurer de synchroniser ta respiration avec les vibrations. Puis à un moment donné, tu t'endors comme si rien n'était. Il y en a qui utilisent des applications pour ça. Il y en a qui ça va être de la musique ou des fréquences ou. Mais non, moi, les pieds, ça fait un job, là.
Non.
Non, ça t'écarte, oui. Véro, c'est une même.
Quand je vois sur des sites un peu louches, là, puis je vois les fétichistes, là, et tout ça, ouais. Fétichistes des pieds, j'ai jamais compris. J'ai jamais osé cliquer parce que je veux pas savoir qu'est-ce que vous faites avec vos pieds,
disons. J'ai un ami, pendant la pandémie, à un moment donné, lui, il est vidéaste, photographe et tout, puis il y a un moment où, avec sa blonde, ils ont pris la décision de se partir un OnlyFans. Mais tu verrais pas leur tête. C'est vraiment comme le principe, c'est deux corps. Là, tu comprends? Et il recevait des demandes spéciales parce que tu peux payer là, sur OnlyFans pour avoir de quoi qui te plaît plus à toi. Puis ils ont reçu un bon montant et la demande de la personne, c'était d'avoir un comme tu mets la caméra, mettons, à la hauteur de tes pieds, puis d'avoir comme l'effet pied de géant qui écrase des affaires. Fait que de la bouffe, de tout ce que tu voudras. Puis cette personne-là a payé un montant faramineux pour avoir cette vidéo-là privée.
Fait que, combien, mettons?
Ben là, je me suis dit, écoute, le montant, je pourrais pas te le dire, mais je me souviens que ses premiers mois, il faisait énormément d'argent. Puis c'était autour probablement d'un genre de 500 $ là, de la shot pour avoir une vidéo où elle écrasait avec ses pieds, puisque c'est lui, il filmait, c'est sa blonde qu'il faisait.
Ouais.
Des objets ou du riz, là, des affaires. Là. Fait que tout ce que tu avais sur l'image, imagine un gros pied, là, tout nu, là, qui écrase des affaires.
Ah, ouais.
Il est payé pour ça. Ça faisait partie de son. Lui, c'était vraiment un fétiche. Il tripait là-dessus, les pieds.
Ben, écoute, le faire pour l'argent, c'est je juge pas ça, là. C'est de leurs affaires. Mais moi, c'est la personne qui l'achète.
Mais je comprends pas ça, moi non plus.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais t'en as-tu un fétiche de même, ou quelque chose que t'aurais déjà aimé essayer, ou quelque chose qui t'intrigue, ou je sais pas.
Qui m'intrigue? Non. J'ai pas mal tout essayé ce que je voulais essayer, puis j'ai pas mal tout refusé ce que je voulais pas essayer. Oui. Non, je suis correct de ce côté-là. Mais je me pose tout le temps des questions. Là. C'est peut-être un peu psychologique, mon affaire. Là. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance de cette personne-là pour qu'elle bloque sur les pieds?
Mais je pense pas que c'est un lien avec l'enfance.
Qu'est-ce que son père ou sa mère a fait qui fait en sorte que ça a changé comme le cours de sa vie sexuelle?
Mais mettons. Je pense que ça n'a aucun rapport avec ça.
Ah, moi, je pense que ça a un rapport avec ça.
Voyons, tu ne me diras pas que si tu rassembles toutes les fétiches
moi,
de pieds dans un...
Moi, j'ai pas été nourri au sein.
Franchement!
J'aime les femmes!
T'es pouf,
c'est un raccourci, je pense.
Un gros... C'est comme une pente fatale, là, ouais. C'est...
Elle m'a pas nourri au sein, fait que ça donne ce que ça
gros
donne. J'aime les femmes.
Gros raccourci intellectuel, ça, là. Non, mais moi, je pense pas que tu prends toutes les personnes qui ont ce fétiche-là de pied, il y a pas de lien commun, c'est
oui.
Sûr qu'il y en a.
Je suis persuadé. J'ai aucune base scientifique pour te dire ça, mais je suis certain que c'est quelque chose qui se passe dans notre enfance qui change le cours de notre vie sexuelle. J'en suis certain. Surtout pour ceux qui ont des petits fétiches sur les pieds, ces affaires-là. C'est clair, ça peut pas être autre chose.
Ben écoute, là, j'essaie de regarder en ce moment. Il y a eu des articles là-dessus.
Origine, fétichisme des pieds.
Qu'est-ce qui fait en sorte que le pied en dégoûte certains, mais en attire d'autres? Plaisir, non? OK, fait que... Okay. Ce qu'on dit, c'est que c'est important de différencier la préférence du fétiche. Ouais. Dans le cas d'un fétiche, l'excitation est impossible en l'absence de l'élément fétichisé. Mm-hmm. Alors que dans le cas de la préférence, c'est pas un élément essentiel. Fait qu'il y a des gens qui font juste aimer les pieds et d'autres qui en ont besoin pour leur relation. Ce qu'on dit... Ah, ben oui, toi, ça peut naître dès l'enfance. Fait qu'on dit que ça peut être un élément déclencheur souvent qui est très, très anodin. Puis pour reconditionner le cerveau des gens qui veulent se débarrasser de ce fétiche-là qui est gêne, il y a des exercices que tu peux faire pour essayer d'enlever le plaisir que tu éprouves à dépendre de ce fétiche-là qui est, dans ce cas-ci, mettons, le pied. Fait que c'est une obsession que tu peux avoir dès l'enfance, mettons. Fait que si votre bébé actuellement ou votre enfant en bas âge joue avec ses pieds constamment... Faites quelque chose.
Je déteste avoir raison, Audrey.
Mais non, mais... Attends, ça ne dit pas que tu as raison. Ça dit que ça se développe dès l'enfance. C'est différent, là.
Ben là, je t'ai dit, c'est quelque chose qui s'est produit pendant l'enfance. Puis que les parents ont peut-être fait de quoi au travers.
Oui, mais là, rendu là, c'est une préférence comme une autre.
Non.
C'est particulier.
Non, c'est des pieds. C'est... Non. J'ai un de mes chums, on l'agaçait avec ça dans le temps du fin secondaire. C'était-tu fin secondaire début cégep? Mais en fait, il s'appelle Dave. Puis lui... Quand il était dans les bars, on était tous célibataires à l'époque, quand il était dans les bars, puis il avait la chance de voir des filles en sandales ou en gogoon, quoique les filles ne sortaient pas en gogoon. Aujourd'hui, les filles, vous allez en gogoon puis en pyjama à l'épicerie, là. Mais dans le temps, les gens étaient un peu plus fiers.
C'est donc, le dimanche.
Quand les filles étaient en sandales, ils regardaient les pieds, puis peu importe le visage de la fille, si elle avait des beaux pieds, c'était correct. Si elle avait... Elle n'avait pas des beaux pieds, c'était... Il
ça marchait
rien
pas.
Ça marchait pas.
C'est spécial,
il y avait un
hein?
blocage.
Dans les fétichismes, dans le principe des fétichismes sexuels, là, les plus populaires, là, les pieds font partie des populaires, mais on dit aussi les jambes. Ça, j'arrive à comprendre dans la mesure où c'est beau, une fille qui a des belles grandes jambes. Là.
Ouais, moi, pas tant. À part au printemps, là, mettons, quand tu te promènes sur la Grande Allée, puis là, ça faisait longtemps que tu les voyais toutes avec des sautes de ski.
Ouais,
là.
Ouais, ouais.
Tu sais, tu vois que c'est le printemps. Là. Ah, ben, c'est ça, c'est le printemps, les jambes
mais
sont sorties.
Dire que c'est un fétiche,
moi,
je sais pas. Nombris. Nombris fait partie de la liste des plus grands fétiches
non
sexuels.
Plus.
Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de le fun avec un nombris, par exemple. Le nez. Le nez fait partie des grands fétichismes sexuels populaires. Les mains, je peux comprendre. Tu sais, il y a des affaires dans la vie qui t'attirent quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît. Non, mais quelqu'un qui a des bonnes grosses mains, mettons, il se regarde les mains. Je ne commenterai pas tes mains en passant. Mais quelqu'un qui a des bonnes grosses paluches, là.
Ouais.
Je sais pas, il y a quelque chose de sécurisant, de rassurant, d'attirant là-dedans. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pas un fétichisme, par exemple, mais les mains font partie de la liste. Les joues. Il y a des gens qui trippent ses joues. C'est bizarre, ça. Ce que je trouvais cute, moi, quand j'étais jeune, je me souviens, on avait un petit gars à l'école, là, au secondaire, qui avait. Puis le pire, c'est que je pense que c'est une maladie. C'est comme une forme de rosacée, je pense, là. Tu sais, sur les joues, il y a des gens qui ont comme les joues rouges en permanence, là.
Mm.
Sais-tu de quoi je parle ou pas pantoute?
Ben, oui, là.
En tout cas, je trouve que ça part pas, là. C'est comme une genre de petite maladie, là. Puis ça, je trouvais ça bien cute. Je me souviens que je trouvais ça mignon. Les narines. Il y a des gens aussi que ça les attire bien, bien gros.
Il y a une maladie que tu trouvais mignonne, c'est ça?
Ben oui, non, mais les joues rouges. Les joues rouges en permanence, 88-971-1021.
Mais la rosacée, ça se peut, là.
Ça se peut-tu que ça soit la rosacée?
Ça se peut.
Parce que je me semble, rosacée, ça sonne quand t'es plus vieux un peu.
Moi, tu vois, mon gars, il y a 10 ans, là, il a commencé à se poser des questions sur ses taches de rousseur.
Ah, mais
fait
c'est
là,
mignon.
Il y a des taches de rousseur sur le nez, il y a des taches de rousseur juste en dessous des yeux. Puis j'ai dit, inquiète-toi pas. Parce que là, il se disait, papa, ça
va. Ça le complexe-tu?
Je sais pas. J'ai pas réussi à déterminer pourquoi il me posait ces questions-là, mais j'ai dit, je sais pas si tu vas pouvoir les garder parce que papa, il en avait quand il était jeune à ton âge. Puis après ça, ils sont disparus avec le temps.
Et puis des fois, c'est le soleil, t'en as l'été, mais t'en as pas l'hiver.
Puis il est passé à d'autres choses. Moi, c'était surtout l'été que ça sortait avec quand le printemps était arrivé.
Ouais.
Là, ça sortait, j'avais des taches de rousseur. Ça fait la même affaire que mon plus vieux, mais il a commencé à me poser des questions sur son apparence.
Hey, que c'est tough, hein? Puis quand tu t'en vas vers l'adolescence, tu te compares de plus en plus aux autres. On dirait que. J'ai beaucoup d'admiration pour les jeunes qui sont capables de se trouver rapidement, qui s'affirment rapidement dans leurs habillements, dans leur attitude, dans leur façon d'être. Moi, j'étais le genre d'adolescente qui essayait de fitter dans le moule le plus possible. Pour pas me faire écœurer, pour pas voir de différence, j'essayais de suivre les petites modes, là, puis pour être sûre de pas être trop différente au final.
Oui, je sais pas, j'ai jamais cherché à me comparer. Peut-être. Des fois, on le fait instinctivement sans s'en rendre compte, puis des fois, on le fait intentionnellement, c'est de se comparer. J'ai un de mes chums qui se regardait jamais dans le miroir. Là.
Voyons donc, pour vrai?
Jamais, jamais, jamais. Tu sais quoi? C'était comme ça au primaire. Ils sortaient tout croche de chez eux. C'était comme ça au secondaire. C'était comme ça au cégep. Il a rencontré une coiffeuse. Elle coiffe, puis il se regarde même pas dans le miroir. Fait que des fois, il fait des coups, là, puis il s'en rend même pas compte. Là.
Ben j'ai de l'admiration pour lui, dans la mesure aussi, ça lui permet d'être bien avec lui, puis de pas se poser de questions. Moi, c'était l'inverse. Il y a comme une période de ma vie où on dirait que chaque reflet que je pouvais croiser, je me demandais si j'étais correct, si je me tenais assez droite. Tu comprends? Si
il y a des
gars au
gym qui font ça.
Ah oui, ça, c'est tannant, par
exemple. Ils font une série, puis après ça, ils vont voir
ouais,
si ça a fait de quoi
non,
dans
ça,
le miroir.
Là, non, ça, c'est ridicule.
Parce que tu sais pourquoi les miroirs sont là au gym? Pour voir si tu fais ton exercice convenablement.
Ben oui.
Sauf que c'est pas tout le monde qui l'utilise à bon escient.
Non, puis les gens, mais non, souvent c'est pour savoir si t'es beau. Forces-tu bien, t'es-tu bien placé? Est-ce que t'es beau pour la personne qui va passer derrière toi?
Est-ce que mon set fait une différence?
C'est ridicule, je trouve.
On me dit que la grosseur des mains aura un rapport, Audrey, avec la grosseur du... il est quelle heure? 10h15? Du paquet.
Oui. Ben nous autres, je sais que c'était comme quelque chose qui se promenait, là. Grosse main, grosse graine, c'était ça la phrase.
Il est 10h15.
Oui, mais il est 10h15, je me dis que normalement, les enfants sont pas là. Ça me permet d'être un peu plus... mais c'était vraiment ça qu'on se promenait puis on se disait ça. C'était effectivement, on se potait les mains des gars.
OK.
Oui, ça venait comme avec. C'était un... Ben là, jusqu'à preuve du contraire, à date, ça fonctionne, mais ça a-tu vraiment un lien scientifique? Je ne pense pas, là.
C'est pas aussi scientifique que mon hypothèse de tantôt qui te disait que les fétichismes, ça avait rapport avec l'enfant.
Mais c'est ça, j'ai... Écoute, sais-tu quoi? Je vais me prendre une note. On a Mademoiselle V qui va rentrer dans nos collaborations là, de semaine en semaine. Je pense que je vais lui demander de se pencher sur cette question-là. Mmh. Elle est consultante en sexologie. Fait que je vais me prendre une note sur...
Ostineuse, les faits.
Ah, absolument. Moi, okay. Moi, faut que quelqu'un m'apporte des faits.
Ouais.
Fais tes recherches.
Ben oui! J'embarquerai pas là-dedans. 10h16, vous avez des choses à nous dire dans l'open mic. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021. On a quelque chose d'exceptionnel ici à la station, sur les ondes de boulevard. On a une animatrice qui est aussi une chroniqueuse film qui vous parle de deux fois du même film en 2 ans sans s'en rendre compte.
C'est épouvantable. Hein?
C'est Audrey Pinchot.
T'as-tu entendu?
Ben oui, un peu. On m'en a parlé, là. T'as parlé d'un film, v'là 2 ans.
Oui.
T'as dit que c'était poche.
Oui.
Tu l'as réécouté avant hier.
Oui.
T'en as fait une critique hier matin avec moi. Je pense qu'on n'était pas en onde. Puis t'en as refait une critique hier après-midi avec Denis. Et Véro t'a dit, Audrey, tu nous as parlé de ce film-là il y a de ça exactement 2 ans.
Je vais te faire une confidence, là. Véro puis Denis, c'est deux personnes qui trippent sur le cinéma, la télé. Ils sont cinéphiles. Ils aiment vraiment beaucoup ça. Puis quand j'ai commencé à travailler avec eux autres, je me sentais vraiment rejet parce que moi, quand j'étais jeune, je jouais dehors. J'ai pas appris à apprécier, je veux dire, le cinéma dans toute sa grandeur, tu comprends? Fait que je comprends pas tout le temps le buzz autour de certaines affaires. Tu sais, moi, mettons, d'une, là, je le sais, là, la grandeur que ça a, à quel point ça fait triper tout le monde, mais je suis convaincue que je regarderais ce film de 3 heures-là, puis je m'emmerderais à un certain point.
Le premier d'une était très emmerdant, là, celui que j'ai vu, moi, dans les années 80.
Mais celui que Denis Villeneuve a fait,
je l'ai trouvé
exceptionnel.
Un peu long, mais excellent.
Mais il faut que je me force pour, tu comprends, analyser, puis eux autres, c'est naturel pour eux. Fait que j'essaie de me forcer de temps en temps à écouter des films pour être capable d'embarquer dans la conversation. Et là, hier, les deux sont comme « Hey, j'ai regardé ça, moi j'ai regardé ça, puis je suis comme « Hey, j'ai regardé un film vendredi, puis je suis vraiment énervée de leur en parler parce que je regarde rarement des films. » Puis vendredi, moi, mon chum, on s'installe, puis il me donne des suggestions de films qu'il a trouvés pour pas qu'on niaise trop longtemps sur Netflix, et il m'arrive avec « Luckiest Girl Alive ». C'est Mila Kunis qui est là-dedans. C'est un film qui a l'air, quand tu regardes la bande-annonce, là, vraiment businesswoman qui a un passé trouble un peu. Puis là, tu te dis « Il y a sûrement un meurtre, il y a du suspense, ça va être le fun, ça va être bon. » Puis Quand tu regardes le film, tu te rends compte que c'est des scènes qui sont vraiment lourdes, en train d'agression sexuelle, entre autres, mais c'est très, très graphique. Fait que ça gâchait un peu mon vendredi soir, parce que je me suis mis à comme réfléchir, puis là, j'étais pas bien, puis je venais de voir des agressions, tu comprends? Et là, hier, je leur raconte ça, mais bien, bien fière d'avoir écouté ça, pour me rendre compte qu'il y a des auditeurs qui nous écrivent via le Twitch, puis le 9-7-1-2-1. Hey Audrey, t'en as parlé de ce film-là il y a 2 ans quand il est sorti en 2022. Véro est comme, ben oui, Audrey, c'est moi qui te l'avais conseillé, puis on avait parlé ensemble le lendemain. J'ai vraiment une mémoire de merde.
Mais t'as plein d'autres qualités.
Sûrement. Mais sais-tu quoi? Je vais prendre... On jasera un moment donné ensemble du principe du palais mental. C'est un auditeur qui m'a dit « Audrey, va checker ça. » C'est une façon, quand t'as pas une bonne mémoire de base, d'essayer de la travailler pour camoufler, mettons, ce défaut-là.
La mémoire va être de pire en pire. Là. Aujourd'hui, pour exister, t'as plus besoin de mémoire, tandis qu'avant, t'avais besoin de ta mémoire pour exister.
Mais oui, moi, je suis Miss Google, là. Je me pose une question, j'ai la réponse au bout des doigts.
C'est du consommer-jeter, puis on retient pas tout.
Oui, mais je trouve ça gênant. Moi, tu vois, j'admire les gens qui ont une grosse, une belle et bonne mémoire.
Si ça va dans tes champs d'intérêt, tu vas être capable de retenir une partie.
Ça, t'as raison.
Si ça t'intéresse pas, ton cerveau, là, le lendemain, il va l'avoir rejeté, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il fasse le ménage. Puis dans les années 80, je me rappelle pas c'était quelle émission, mais c'était une affaire de livre des records mondial. Puis il y avait un gars que lui, sa force, c'était sa mémoire. Puis il accueillait des gens au début de la croisière. Il allait faire une croisière pendant une semaine avec ces gens-là. Fait qu'il accueillait les gens. Il se présentait comme étant un gars qui voulait réaliser un record mondial, le gars qui avait la plus grande mémoire au monde. Puis il se présentait, puis les personnes disaient « Mon nom, c'est Audrey Pinchot. Mon nom à moi, c'est Yannick Marceau. » Puis à la fin de la croisière, lorsque les gens sortaient, les caméras étaient présentes, puis il a gagné, il a réussi à faire son record mondial. Il se souvenait de tout le monde.
C'est fou. Moi, j'ai une mémoire émotive. Mettons qu'on se pogne demain matin, moi puis toi, Yann, là, je doute que ça arrive. Là. Je vais le retenir. Je vais retenir la date, le sujet. Ça, là, tout ce qui touche à l'émotion ou aux gens que j'aime ou à des sujets peut-être qui viennent me pogner en dedans, j'ai une mémoire exceptionnelle. Mais tout ce qui est comme plus factuel, là, j'ai le jeteux facile. Je flush. Ils appelaient ça botcher. Nous autres, quand on était au secondaire, on botchait nos études.
T'es une petite botcheuse.
Ouais,
hey, l'école n'est pas recommencée. On va faire attention à ce qu'on dit.
T'as raison.
Malajube, radiologie sur les ondes de boulevard.
Avec Marceau et Audrey Pinchot.
Boulevard 102.1. Vous avez des choses à me dire, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci de nous en informer. Côté météo, on sera pas gâtés pour les prochaines heures. Ce serait peut-être plus vendredi, selon les divers sites de météo, qu'on devrait revoir le soleil. Donc, des averses pour aujourd'hui, maximum de 16 degrés. Demain, mercredi, ce sera des averses avec un maximum de 15. Jeudi, des averses, maximum de 16. Et vendredi, tel que promis, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 23. Puis pour ce qui est du week-end, c'est que du soleil samedi et dimanche. Donc, c'est la bonne nouvelle, Audrey, on va bâtir là-dessus. Dans l'open mic, on a l'occasion d'avoir beaucoup de temps pour jaser avec des gens qui ont eu de grosses carrières. Puis c'est le cas aujourd'hui. Quelqu'un que je retrouve, avec qui j'ai eu le plaisir de discuter plusieurs fois. Si vous avez la chance de rencontrer cet homme-là, c'est un monument encore vivant. Et on a le plaisir de lui jaser, c'est Maître Guy Bertrand. Comment allez-vous, Maître Bertrand?
Très bien, merci. Très bien, merci.
Est-ce que vous venez d'avoir une petite opération, je pense, une opération au genou, là?
Oui, un petit genou mécanique maintenant. Mais c'est pas grave. Ouais. Le cerveau tient le coup. La carcasse, comme toute personne à mon âge, finit par travailler. Donc, il faut... pour accepter les conséquences de l'âge.
Ben oui, j'ai pensé à vous en fin de semaine. J'étais en train d'écouter pour une deuxième fois le documentaire où vous avez participé, là, c'est-à-dire le documentaire sur l'individu qui a, je pense, propulsé votre carrière. Un gars qui a tué malheureusement des enfants, puis ça prenait quelqu'un pour s'occuper de son cas. Et c'est vous qui vous en êtes occupé. Le documentaire était disponible sur Crave, puis je me suis dit, tiens, Audrey, on va jaser avec Maître Guy Bertrand pour prendre des nouvelles. Y pensez-vous encore à Léopold Dion, Maître Bertrand?
Oui, parce que je sais qu'il y a déjà d'autres personnes qui veulent faire un autre documentaire.
Encore? Ah oui.
Par les temps qui courent, c'est surtout l'affaire Cédrica Provencher qui
aussi
m'amène à faire des entrevues. Puis, pratique toujours le droit avec ma fille Dominique Bertrand, qui est directrice générale. Et on est très occupé dans un super gros procès, probablement le plus gros de ma carrière, mais qui se fait de façon discrète, pour ne pas dire presque secrète, qui implique toute l'affaire des fuites médiatiques qui a amené la nullité des procès de Nathalie Normandeau, entre autres, Marc-Yvan Côté, le maire de Terrebonne, l'arrestation de Guy Ouellet. Donc nous, on est dans ce cabinet-là, on est dans ce dossier-là. On a pris une poursuite gigantesque, la plus grande au Canada, contre tous les médias de TVA, médias, Cogeco, Paul Arcand, tout le monde. Et dans cette poursuite-là, Guy Ouellet, l'Assemblée nationale, le BEI, le DPCP. Ouais. C'est un immense dossier. Secret parce que les journaux n'en parlent pas, parce que la plupart sont impliqués dans ce dossier-là. Mais évidemment, j'en parlerai pas plus parce que je veux pas faire le procès public de ce dossier-là. Mais ça m'occupe beaucoup. Je plaide avec Dominique Bertrand. Ça fait 5 ans que ça dure, le procès n'a pas encore eu lieu. On est encore à attendre les résultats de l'enquête serment. Enquête serment, pour les gens qui nous écoutent, c'est l'enquête qui vérifiait l'enquête Projet A, qui, elle, enquêtait sur les fuites médiatiques. Et normalement, ça devrait terminé, puis on attend le DPCP pour voir s'il va y avoir des poursuites dans l'affaire des fuites médiatiques. Alors, je ferme la parenthèse pour vous dire que mon cerveau est en ébullition, comme je le disais au juge, mais il lutte beaucoup de temps en temps contre la carcasse, ce qui est normal pour les gens de mon âge, semble-t-il.
Ouais. Maître Bertrand, vous pratiquez le droit depuis plus de 50 ans quand même en continu, il faut le dire, là, dans presque tous les domaines du droit, vous avez plaidé. Est-ce qu'on se fatigue à un moment donné? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes tanné de votre métier ou c'est encore bien présent la passion?
Ah, ce qui m'a gardé extrêmement alerte, c'est ce goût du travail. Parce que le travail, c'est une partie du bonheur. Le grand philosophe Khalil Gibran le dit, il y a quatre conditions pour être heureux. Puis si tu as les quatre, tu n'as pas le droit d'être malheureux. Mais parmi les quatre, la plus importante, c'est le travail, la santé, parce qu'il y a des gens qui sont pas en santé, qui sont en fauteuil roulant, puis sont plus heureux que des gens qui ont de l'argent. Donc, etc., etc. Puis l'autre condition, c'est l'amitié, avoir au moins une personne qu'on aime et qui pense à nous chaque jour, et le minimum vital. Donc, le travail est le plus important de tout, pourvu que tu as un travail que tu aimes. Tu peux être médecin et être malheureux, puis tu peux être un chauffeur de camion et être parfaitement heureux. Donc, pourvu qu'on ait un travail. Alors, ce travail, ce goût du travail, je l'ai, ce qui m'a amené à travailler beaucoup et qui m'a sorti un peu de la pratique du droit, toute ma vie, ça a été depuis l'âge de 15 ans, cette idée que j'avais qui fait dire à mon père, tu seras toujours mal aimé, mon fils, avec tes idées un peu farfelues. Tu es toujours 10 ans en avant de ton temps, les gens vont penser que c'est fou ce que tu fais. Mais moi, je dis à papa, ben voyons, quand j'aurai plus tard, ils vont prendre mon idée, ils vont dire, ben, c'est Maître Guy Bertrand, non, ils vont dire que c'est leur idée, puis toi, tu seras toujours à la recherche. Donc ça, c'était le premier tome de mon essai biographique. « Sera toujours mal aimé, mon fils. » Où là, j'ai dit à mon père que je n'acceptais pas sa philosophie de me marier, d'avoir des enfants, puis d'avoir un travail, parce que déjà jeune, je savais que je serais avocat. Et d'être heureux comme ça, j'ai dit non, ça ne me rendra pas heureux. C'est beau, mais ça me prend plus que ça. Mais dans le deuxième tome, qui est pour l'indépendance du Québec, je misais sur le hockey et les Nordiques. Il y a beaucoup, beaucoup de sports, l'équipe nationale de hockey, puis etc., etc., le référendum de 80. Et là, je commence à découvrir que mon père avait raison, mais pas tout à fait. Dans le troisième tome, là, qui s'appelle Espoir anéanti, oui, effectivement, je découvre que j'ai plein d'adversaires, je ne suis pas aimé, puis
Ouais.
je dérange tout le monde, puis, mais je l'accepte comme ça.
Les
Je
causes.
dérange tout le monde parce que je suis toujours en avant de mon temps.
Ouais. Les causes qui vous ont le
Donc,
plus marqué, on a parlé de Léopold Dion, mais les causes qui vous ont le plus marqué, là, où vous voulez qu'on se souvienne de Maître Guy Bertrand, c'est lesquelles?
ben, Léopold Dion, oui, c'est un. Pourquoi on en parle encore? Parce que ça m'a amené à m'impliquer sur le plan humain, sur le plan philanthropique, etc. Premièrement, cette cause-là, j'avais 26 ans. C'est un ordre de la Cour, il n'y avait pas d'aide juridique, de défendre in forma pauperis. In forma pauperis, c'est un mot latin qui veut dire pour les pauvres, une procédure pour les pauvres. Puis on n'avait pas le droit de refuser, sauf si on est marié ou on a des enfants. Donc, j'étais célibataire à ce moment-là, 25 ans, 26, 25 ans, et je n'avais pas d'enfant. Puis, on avait 24 heures pour réfléchir, puis j'ai accepté pour apprendre par la suite que le juge avait choisi à travers tous les avocats qui étaient dans la salle d'audience à ce moment-là, pour l'ouverture du terme des assises criminelles, en pensant, puis là, écoutez. Je comprends, vous direz, tout le monde est mort, puis, mais je vous dis la stricte vérité telle que je l'ai vécue. Par la suite, j'ai appris qu'on m'avait tout simplement nommé, sachant que j'étais jeune, sans expérience, et que ça serait un procès où Dion plaiderait coupable. puis ça se terminerait là.
Ouais. Est-ce que vous vous attendiez à vous faire menacer personnellement en prenant cette cause-là? Parce que les gens qui nous écoutent vont apprendre quelque chose. Le maître Guy Bertrand a dormi avec une arme pour parce qu'on craignait que sa sécurité, on craignait pour sa sécurité.
Oui, mais quand on est jeune, on est téméraire. Puis effectivement, quand le procès a eu lieu, par la suite, lorsqu'on était en appel. Durant le procès, vous voyez, le procès devant les jurés, j'ai été menacé. La police m'a même recommandé de sortir à des heures différentes, de ne pas sortir de mon bureau à la même heure, être prudent sur la route. Puis au palais de justice, on a arrêté une personne avec un pistolet qui était logé aux deux, c'est-à-dire dans l'ancien palais de justice, il y avait comme une mezzanine.
Ouais.
Mais lorsqu'il a été condamné, là, par la suite, j'ai été marié. C'est l'année suivante. Je me suis marié avec une jeune femme de 19 ans, 20 ans, Lisette, qui est toujours mon épouse. Et elle a été menacée de mort. Donc, on a dû lui demander d'aller rester à Rivière-du-Loup chez ses parents. Et là, j'avais mon arme à feu chez moi pour me protéger parce qu'on avait menacé de tuer mon enfant.
Mais voyons donc.
J'ai eu un petit bébé. Et mais c'était surtout pour ma femme et mes enfants et mon enfant. Mais pour moi, comme vous savez, on est téméraire à cet âge-là. On dit, bon, mourir là ou mourir autrement, vraiment, j'avais pas peur. Parce que si j'avais eu peur, j'aurais arrêté la cause. Puis j'ai continué jusqu'à temps que je l'ai sauvé de la peine de mort. En allant devant le gouverneur général en conseil, ça va vous dire quelque chose, le gouverneur général en conseil. D'abord, la cause est allée jusqu'en Cour suprême. On a plaidé la maladie mentale, l'irresponsabilité pour cause de maladie mentale. Important de vous dire que le psychiatre qui a accepté de représenter cette cause-là était un indépendantiste. C'est Camille Lorrain, qui est devenu par la suite ministre de l'Éducation,
ouais,
du cabinet de René Lévesque. C'était le meilleur. Personne voulait à Québec toucher à ça. Personne. C'était l'enfer à Québec. Donc, j'ai dû aller à Montréal et c'est là que j'ai connu Camille Lorrain qui a accepté de le défendre. Et en plaidant que l'homosexualité, c'est une maladie mentale à l'époque.
C'était considéré comme tel.
Ouais. Aujourd'hui, on n'a même plus le droit de dire ça, là.
Oui, mais c'était considéré comme tel. Aujourd'hui, les choses ont avancé.
Dans d'autres médias, puis on dit, Monsieur Bertrand, vous ne pouvez même pas dire ça à la télévision, c'est une maladie mentale. Donc, et c'est un crime, c'est un acte criminel. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus un acte criminel.
Exact.
C'est même impensable que c'était comme ça à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux vous dire, c'est que après être allé en appel, en Cour suprême, où il a été condamné à monter sur l'échafaud, j'ai décidé d'aller devant le gouverneur général en conseil. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dernièrement, dans la cause de Jacques Delisle, juge, on a entendu parler de ça, qu'on peut aller, après la Cour suprême, devant le gouverneur général en conseil, qui lui peut, s'il y a eu des erreurs judiciaires ou pour d'autres motifs humains, prendre des mesures, y compris, dans le cas, l'exonérer de la peine de mort. Alors, on est allé devant le gouverneur général en conseil, j'ai fait un mémoire, et croyez-le ou non, puis ça c'est bon sur le plan humain, que vous le sachiez, trois des mères des victimes m'ont écrit une lettre pour me demander de l'aide, parce qu'il n'y avait pas d'aide aux victimes criminelles dans l'époque. Et puis là, je leur demandais pourquoi vous n'avez pas le procureur de la Couronne. Ils ont dit, Monsieur Bertrand, on vous appelle parce que vous êtes humain, parce que vous allez faire quelque chose, parce que vous bougez. Et là, j'ai produit cette lettre-là au gouverneur général en conseil, la lettre des mères, qui disait, malgré qu'on sait que, son enfance, c'est vous, on veut vous avoir comme avocat pour de l'aide. Et là, le ministre, le procureur général du Québec a engagé d'autres psychiatres que ceux qui ont témoigné contre Camille Lorrain. Et finalement, la peine de mort devait avoir lieu. J'ai mon billet pour me rendre au pénitencier où il devait être exécuté. Et 5 minutes avant que je parte, je vous dis, j'avais mon manteau sur le dos pour me rendre pour me rendre prendre le train. Et là, on me lit un télégramme, Maître Bertrand, peine de mort de Léopold Dion sera commuée en emprisonnement à perpétuité. Puis là, je me rappelle, mon épouse est devant moi, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Puis je dis, Lisette, on a gagné. On a gagné quoi? Mais on sera pas pendu. C'est le rêve de ma vie d'abolir la pendaison. Mais elle dit, on n'a pas gagné, là. Oh, là, je sais, je comprends ce que je veux dire. Ça ne peut pas être une victoire, on ne pourra jamais célébrer ça, là. Il y a 4 enfants qui sont morts. Et pour un avocat, se battre pendant 4 ans, puis
Ouais.
arriver à la fin, sauver, d'éviter la peine de mort, qui par la suite a été abolie en 1972, 4-5 ans plus
Ouais.
tard, la peine de mort est
Vous
abolie.
aviez réalisé votre promesse. Est-ce que je me trompe ou vous êtes l'homme qui a fait le plus de politique dans la vie sans jamais avoir été politicien?
Oui, effectivement, sans l'ombre d'un doute, toute ma vie, c'est une carrière politique, toute ma vie. À partir de, ça a commencé à l'université, c'est allé par la suite avec un parti indépendantiste qui s'est formé. Après ça, avec Daniel Johnson qui m'a connu, j'étais étudiant puis qui m'a demandé de faire un discours pour affronter Claude Ryan, puis un économiste de l'époque. Puis il m'a dit, vous parlez de ce que vous voulez. Donc, je parlais de l'indépendance devant 1 000 personnes. Et par la suite, j'ai quitté M. Johnson, quand il a été reçu avocat, m'a demandé de faire partie de la commission des affaires de la nation pour préparer le calendrier de transfert des pouvoirs advenant qu'on fasse l'indépendance, parce qu'il avait écrit un livre, Égalité ou indépendance. Il a pris le pouvoir. Et là, on a préparé un calendrier. J'étais tout jeune. Je travaillais avec un autre constitutionnaliste pour préparer le transfert des pouvoirs entre Ottawa et Québec. Puis quand il a pris le pouvoir, il a abandonné son projet. Il est mort peu de temps après. Là, j'ai connu Bourgault, René Lévesque, et avec M. Lévesque, on a fondé le Parti québécois. Juste après, j'ai fondé le Bloc québécois en 1972. J'ai pas le temps de vous dire avec qui il y avait beaucoup de monde, mais dont Louis O'Neill qui est devenu ministre, Mathias Rioux qui est devenu ministre par la suite du Parti québécois. Donc, c'est pas oh, Lucien Bouchard qui a fondé le Bloc québécois en 1992. Lucien Bouchard m'a demandé en 1992 d'utiliser le nom qui avait été enregistré, le Bloc québécois, qu'on avait fondé en 1970, 71, pardon.
Maître Bertrand.
Alors ça, c'est une partie de l'histoire que les gens ne savent pas. Les journalistes ne creusent pas souvent, là, puis bon, on pense que... Mais ça, c'est officiel. Mais aussi, j'ai participé beaucoup à défendre les gens lors de la crise d'octobre, quand on a mis l'armée dans les rues de Québec. J'ai connu les gens du FLQ. J'étais impliqué dans la Samedi de la Matraque,
Maître
dans
Bertrand,
le Québec.
ça a l'air d'être le combat carrément de votre vie en parallèle, la politique en parallèle au fait d'être avocat puis d'aider les gens. Est-ce que vous auriez aimé faire de la politique en étant élu?
Oui, en 1970, M. Lévesque m'a demandé de me présenter comme candidat. Je me suis présenté dans Dorchester. Il y avait juste 2 membres du Parti québécois. Et c'était les créditistes qui étaient au pouvoir. C'est un parti de droite, d'extrême droite. Et on a parti la rumeur. Je n'étais pas chrétien. Je n'avais pas été baptisé. J'étais un communiste. Donc, c'était les lignes. Le téléphone arabe. On téléphonait. Waouh, tu ne sais pas. Catherine, non. Waouh. Qui Bertrand, il n'est pas baptisé. Non, non. Mais dis-le pas, c'est scandaleux. Puis là, il téléphonait. On appelle ça le téléphone arabe. Et puis, mais malgré tout, on a réussi à faire une grande assemblée avec M. Lévesque. Donc, pour répondre à votre question, Audrey, oui, j'ai été battu, mais j'étais membre actif du Parti québécois, participé au référendum. Là, j'ai créé une compagnie pour négocier avec les joueurs de hockey, quand les Nordiques sont entrés dans l'AMH, signer des contrats français, puis quand le PQ a pris le pouvoir, je me suis battu avec le PQ pour qu'on ait une équipe nationale, puis ça n'a pas marché, bref. Et après ça, est arrivé le référendum, M. Lévesque m'a demandé de présenter les athlètes pour le oui. Alors, dans le tour, ma tournée dans la Ligue nationale de tous les joueurs francophones, les deux seuls qui ont voulu dire oui, c'était mes clients, Michel Goulet et Pierre Lacroix, qui sont venus au Centre Paul Sauvé pour dire pourquoi ils votaient oui, puis tous les autres ont dit non. Ils ne voulaient pas accepter cette démarche. Pas parce qu'il était pas pour le oui. Je me rappelle Régent Tremblay, pas Régent Tremblay, mais Tremblay, le joueur de hockey, là, qu'on voit, qui était pour les Canadiens, il n'était pas contre, puis Guy Lafleur non plus, mais il ne voulait pas se prononcer publiquement. Alors, c'est des choses qui m'ont amené à impliquer toujours la politique au sein de mes joueurs de hockey. Je leur ai appris que la vie, c'était pour que je joue au hockey. Il y avait des choses, il y avait des valeurs nationales, la défense de la langue française. Mais par la suite, là, on a commencé à démolir ce que je faisais, le mal-aimé étant là. Guy Bertrand va vous instrumentaliser, changer d'agent, ça n'a pas de sens, ils vont vouloir faire de vous des séparatistes. Alors finalement, j'ai perdu tous mes joueurs,
Ouais.
et là, les Nordiques ont quitté. Je me suis battu. Ça m'a amené à faire une poursuite contre le PQ, contre M. Parizeau, pour faire un référendum qui était une loi qui était considérée comme inconstitutionnelle, illégale et immorale selon René Lévesque. C'est compliqué, là, j'allais dire. Et en 1985, j'ai oublié de vous dire, j'étais candidat au leadership du PQ, au
C'est vrai,
Grey,
ben oui.
pour combattre, on venait de perdre le référendum et tout le monde s'était écrasé, là, que ce soit M. Parizeau, Madame Marois, Monsieur Landry, Garon, tout le monde s'écrasait. Là, on était à l'époque de Mulroney, le petit livre bleu où on devait réintroduire la Constitution la tête haute, là, finalement.
Maître Bertrand, avec du recul, quand vous regardez le Bloc québécois actuel, puis quand vous regardez le Parti québécois actuel, est-ce qu'ils sont encore conscients de la raison pour laquelle ils ont été créés? Est-ce qu'ils font bien le travail actuellement? Je parle pour le Bloc et pour le Parti québécois. Est-ce que vous auriez une critique à faire?
Ben écoutez, ce n'est pas le Bloc québécois que nous avions fondé. Le Bloc québécois que nous avons fondé, ça apparaît ici dans le premier tome, il est tout expliqué avec la documentation. On l'avait fondé pour une seule raison, messieurs les Anglais, on va vous affronter sur le Parlement que vous avez créé à Ottawa. Mais à chaque question, le député devait prêter serment avant que, quand il serait élu, que chaque fois qu'il poserait une question, ça se terminerait toujours. Et si, monsieur le Président, nous étions un pays, voici comment on réglerait le problème de l'immigration. Et si, monsieur le Président, nous étions un pays, voici comment on réglerait le problème des relations internationales, puis une équipe de hockey au Québec, on aurait déjà une équipe nationale qui gagnerait le championnat. Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est devenu un parti fédéraliste canadien, dans le sens qu'il prône d'améliorer toutes les lois à l'intérieur du Canada, dans la mesure où ça n'affecte pas trop le Québec. C'est pas du tout le Bloc québécois qu'on a formé, qui était pour un peu comme les Irlandais à Westminster, qui était un peu pour, excusez l'expression, là, un peu pour écœurer, là, le Canada en disant, bon, ben, on va vous mettre dehors, on ne veut plus rien savoir, on est tanné de vous autres, de vos questions de séparation. Mes questions de séparation, c'est relié à la valeur, à la stature d'un peuple qui était devenu, puis qui est encore devenu adulte, mature et capable d'assumer ses responsabilités. Et c'est ça qu'on voulait dire à messieurs les Anglais d'Ottawa. Vous avez forgé votre pays, tant mieux pour vous autres, mais nous, on a fondé le Canada 200 ans avant que vous arriviez, on était là. Puis là, la partie du Canada qui nous appartient, ça va être pour le développer en Amérique du Nord comme un pays français, fier de l'être. Et c'est ça qu'on voulait dire, mais c'est plus ça qui se passe actuellement.
Monsieur Bertrand, Maître Guy Bertrand, c'est une sacrée carrière que vous avez là, en fait, là, à plusieurs niveaux. J'ai le sentiment qu'on pourrait faire un podcast avec vous puis parler pendant des heures et des heures. De quoi vous voudriez qu'on se souvienne? On se projette, mettons, là, dans 50 ans, là, on entend le nom Guy Bertrand. Pour vous, qu'est-ce que vous voulez laisser derrière?
Et si j'ai fait trois essais de ma biographie, c'est que le mal-aimé savait que personne n'écrirait pour lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai écrit trois tomes sur le projet Liberté-Nation. C'est vraiment ça que je voudrais dont on se souvienne. Ça, c'est le projet, si vous me permettez de vous montrer les livres à vous, là, puis je vous ai dit que vous en dédicacerez des copies quand vous viendrez au bureau. Le premier tome, c'est pourquoi l'indépendance, pour la survie du Québec français. Donc, le projet Liberté-Nation, c'est trois mots, projet Liberté-Nation. Il y a trois tombes. Le deuxième s'appelle le projet Liberté-Nation. Et le troisième, bienvenue la République fédérale du Québec.
Donc, ce serait le volet politique, finalement.
Et le quatrième, c'est en 2030, la République fédérale du Québec. Bon, pourquoi que vous me posez cette question-là? Je voudrais qu'on se souvienne, si je meurs demain matin, que le Québec aurait pu devenir un pays. Moi, j'ai dit parachever un pays qui existe déjà si on avait arrêté. Je suis un fondateur du PQ qui vous dit ça, là. Qui était avec M. Lévesque lors de la fondation. Pendant 50 ans, on a parlé du pourquoi de l'indépendance. On va devenir plus riche, on va être plus bon, etc. Mais jamais on a parlé du comment. Après que j'ai découvert que ça ne marcherait pas, les référendums sur le pourquoi, on veut en faire un autre actuellement, c'est là que je me suis mis pendant 10 ans à écrire ces tomes-là, le projet Liberté-Nation, qui lui démontre comment y arriver. Et comment y arriver, je voudrais, pour répondre à votre question, que les régions du Québec, qui sont le fondement du Québec, deviennent des États autonomes, unis. Autonome veut dire avec un parlement, un gouvernement et des tribunaux, unis au sein d'une république de langue française, va s'appeler la République fédérale du Québec, pour faire de la nation québécoise une nation libre, moderne, prospère, indépendante, séparée d'Ottawa, je dis bien d'Ottawa et de la Constitution canadienne, et non séparée des Canadiens, parce qu'on ne peut pas se séparer des Canadiens. Ils seront nos meilleurs amis, nos meilleurs alliés, puis en Ontario, ils vont continuer à nous vendre de la pâte à dents, puis nous autres, on va leur vendre des patates. Mais c'est ça, ce projet-là, Audrey, c'est l'œuvre politique de ma vie, le projet Liberté-Nation, qui est méconnu, c'est comme une œuvre littéraire, c'est comme un tableau dans un musée. Mais peut-être qu'avec votre émission aujourd'hui, on commence à s'y intéresser un peu.
Maître Bertrand, ce n'est qu'un au revoir. J'espère vous revoir en entrevue dans les prochains mois pour peut-être creuser un peu plus là, dans tous les trucs que vous nous avez rencontrés, racontés. C'est toujours un plaisir de vous jaser. Dernière fois, j'étais vous voir dans votre bureau. J'ai passé des minutes incroyables en votre compagnie. Vous êtes une source d'histoire infinie, puis toujours aussi intéressant avec une carrière qui est complètement hallucinante, là, dont tous les avocats pourraient rêver, là.
Vous êtes encore le bienvenu et la prochaine fois, amenez Audrey avec vous parce que je lui ai promis de lui dédicacer certains livres.
Maître Bertrand, merci beaucoup.
Passez une belle
Merci, à
journée.
bientôt.
Maître Guy Bertrand, à qui on avait le plaisir de jaser. Maître Bertrand a eu toute une carrière, puis encore aujourd'hui, 87 ans, travaille
Il
à
arrête
tous
pas.
les jours dans son bureau. Tu l'as vu, son bureau? Nous,
Oui.
on est sur Zoom, donc on le voyait. Moi, j'ai été impressionné parce qu'il y a un bureau d'avocat conventionnel, là, comme on connaît. Mais son bureau, à lui, est immense. Puis c'est comme une maison, là.
Il y a tout, là.
Il est là-dedans, il fait ses affaires. Il y a des livres partout. Il y a des dossiers partout. Il y a 87 ans, mais il a commencé le droit dans la vingtaine.
Oui. C'est plus de 50 ans déjà, là, sa carrière.
Ça fait presque 60 ans quand
Oui.
on pense à ça. 60 ans de droit. Dans des affaires hyper compliquées, là.
Oui.
Puis...
Mais moi, tu vois, c'est par rapport au droit que j'ai encore mille et une questions, dans le sens où il en a fait des affaires, il en a eu des cas à gérer, il a plaidé dans tous les domaines du droit pas possible.
Ouais.
Je trouve ça super intéressant.
Moi,
Si
j'ai fait un
jamais.
boulevard du crime sur l'histoire de
Léopold
Léopold
Dion,
Dion.
oui.
En fin de semaine, j'ai retombé pour une deuxième fois sur le documentaire. Je pense qu'il est disponible sur Crave, le documentaire de Léopold Dion, où on retrace l'histoire de cet individu-là. La narration est juste incroyable. C'est Gildor Roy qui fait la narration de Léopold Dion. Puis on voit des entrevues avec Maître Guy Bertrand, à quel point c'est un jeune avocat qui est chargé de défendre un gars que toute la terre déteste au complet à
Ouais.
l'époque, là. C'était dans ses premières causes, puis personne voulait ce
Puis il
dossier-là.
s'en est pas tenu à perdre, là. Il
Puis
est
c'est
allé
lui qui l'a
jusqu'au
pris.
gouverneur général, là.
C'est lui qui l'a pris. Puis en aucun temps, Guy Bertrand respectait ce que Léopold Dion avait fait. Tout ce qu'il voulait, c'est y aller selon ses valeurs fondamentales, c'est-à-dire Un être humain a pas le droit de se faire tuer par un autre être humain. Puis il avait fait une promesse comme quoi à sa famille puis à Léopold Dion comme quoi Léopold Dion ne se ferait pas tuer. Puis ben l'histoire est finie qu'il a réussi à sortir Léopold Dion là. Il n'y a pas eu de sentence de mort. Il s'est fait tuer Léopold Dion en prison par un gars qui s'appelait qui se faisait appeler en prison Laurence d'Arabie qui était aussi fou que Léopold Dion à mes yeux mais qui a réalisé une belle chose à mes yeux aussi. Mais l'histoire de Léopold Dion est incroyable puis même Bertrand a été dans le début du Bloc québécois, le début du Parti québécois. Il a côtoyé Parizeau, il a côtoyé tous les grands politiciens qu'on a connus, tant au Canada qu'au Québec. René Lévesque.
Ce que je trouve fou dans l'histoire de Léopold Dion, entre autres, c'est le fait de te battre jusqu'à la fin pour quelqu'un comme ça. C'est là que tu vois que c'est pas n'importe qui peut faire la job. Là. Pas l'impression que toi puis moi, on se serait forcé pour le sauver de la mort, mettons. Là, fait que je trouve ça fou d'aller jusqu'au bout, de pas s'arrêter à un nom. Fascinant.
Puis tu fais ce job-là, tu sais que personne la veut, mais tu l'as fait. Puis en plus, ton enfant se fait menacer de mort. Ta femme se fait menacer de mort.
Ah, moi, je serais bien folle à ce moment-là.
Il l'a pas dit, là, mais je pense qu'il dormait avec sa carabine.
C'est capoté, hein?
Il dormait avec sa carabine sur lui parce qu'il se disait, un moment donné, ils vont vouloir venir me chercher, fait que je vais être là pour me défendre. Je veux dire, c'est un avocat, là. C'est pas un grand criminel. C'est un avocat, là.
Ouais, mais qui défend, par exemple, le plus grand criminel, fait que c'est particulier.
Ouais, exact. 10h56, vous avez des choses à nous dire. 88-971-1021. 88-971-1021.
Cet été, Boulevard 102.1.
11h! Comment ça se passe chez vous? C'est-tu vous qui faites le ménage? Avez-vous une femme de ménage ou un homme de ménage?
Mais oui, je t'en ai jasé, nous autres, ça a sauvé notre couple. On a une aide ménagère. On dirait que j'aime pas femme de ménage, je sais pas pourquoi. On a une aide ménagère qui vient une fois ou deux semaines faire le gros, là, tout ce qu'on n'a pas le temps de faire au quotidien ou qu'on prend pas le temps plutôt. Là.
Mais ça se dit plus, femme de ménage, comme secrétaire, ça se dit plus non plus.
Moi, j'embarque un peu dans cette gang-là. Je sais pas ce que ça fait. Mais là, c'est très personnel. Ouais, mais
parce que moi, secrétaire, je trouve que c'est pas réducteur pantoute.
Non.
La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le ménage. Femme de ménage. L'homme, si c'est un homme, c'est l'homme de ménage.
Je pense que c'est malheureusement la vision qui vient avec qu'on essaie d'effacer peut-être comme société. Mais non, moi j'appelle ça être ménageur, je sais pas pourquoi.
C'est moi un ingénieur, c'est un ingénieur.
Ah oh, ouais. Non, t'as 100% raison. Là. On comprend.
C'est fou à quel point c'est compliqué.
Non, mais c'est le même. Ben, pas tant dans le sens que pour certains corps de métier, je comprends, c'est comme ambulancier paramédic. T'es appelles plus des ambulanciers, t'es appelles des paramédics parce que le métier a excessivement changé. Puis leur but, c'est qu'ils soient reconnus dans ce qu'ils font parce que maintenant, ben ils font partie importante de la chaîne, finalement.
OK, mais
là.
Pourquoi ne pas les reconnaître en tant qu'ambulanciers? À quel point c'est exceptionnel,
parce que ce métier-là? Il y a une génération que les ambulanciers, dans leur tête, c'est les gens qui venaient chercher le monde puis qu'ils amenaient soit à morgue. Là,
les anciens corbillards.
Eh bien, si tu veux, carrément, pour vrai. Fait que moi, c'est la raison qu'on m'a donnée, sincèrement. Paramédic, c'est une façon de dire qu'on fait autre chose. C'est plus le même métier. Ça prend des études maintenant. Tu sais, c'est question de redorer l'image, j'imagine, avec le temps.
Ça se peut. Mais bref. Femme de ménage, homme de ménage. Ça se dit, ça se dit. 11h02. Tu nous parles de quoi, cher ami?
Ben là, t'as sûrement vu passer dans les derniers jours l'article de notre collègue, je vais l'appeler comme ça, Judith Demel du Soleil, qui vient faire des chroniques ici à Boulevard 102.1 sur la massothérapie et les agressions sexuelles. C'est-à-dire que dans les derniers mois, il y a eu beaucoup d'histoires d'agressions sexuelles par des massothérapeutes envers leurs clients. Une dizaine, on dit presque, sur 2 ans. Puis, tu sais, toutes sortes de cas. Là. En juillet dernier, Martin Giraldo, qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle, lui pratiquait dans le sous-sol de son domicile, a touché les parties intimes de sa cliente. Dans le même mois, André Royer, lui, se déplaçait à domicile pour des massages, avait touché les seins, les mamelons de ses clientes. Lui était le maître Reiki. J'espère que je le prononce bien. Ça, c'est comme des massages énergétiques. Fait que bref, il y avait eu attouchement aussi.
Tu sais que tout ça, c'est de la bullshit, là, le Reiki.
Les types de massages. Ben oui, calinothérapie, les chakras.
Non, mais eux autres, ils ont vraiment l'impression qu'en imposant les mains, là, ils peuvent faire des changements sur le corps d'une autre personne. Ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Puis ils
c'est spirituel comme pratique.
Exactement. Puis ils vont te montrer qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une chaleur, il y a de l'électricité qui se passe en se frottant les mains.
Puis en les passant au-dessus de toi.
Puis après ça, ils vont les passer au-dessus de toi. Fait que l'électricité, c'est de l'énergie statique.
Oui.
Mais eux, dans leur conception, ils appliquent vraiment un traitement. Mais le patient, lui, faut qu'il y croie vraiment parce qu'il y a un 10% à peu près qui peut peut-être changer les choses, là. Mais le 90% des gens qui vont être assis et qui ne croient pas pantoute, ils ne seront pas mieux en sortant du traitement
ben,
requis.
Je pense effectivement qu'il faut une ouverture. Puis ça, c'est comme dans n'importe quoi. Là. Si tu vas consulter un médium demain matin, il faut que tu aies une ouverture. Si tu n'en as pas, il ne se passera rien à un certain point.
Puis je me posais des questions dans la voiture hier parce que je repensais à notre gars là, qui s'est fait déclarer coupable d'agression sexuelle en massant une patiente. Tu sais, combien à ce jour de gens vont apprendre que telle affaire pour un massothérapeute, ça se fait pas, puis ils vont se dire « Ah, finalement, j'ai été victime de ma massothérapeute ou j'ai été victime de mon massothérapeute » parce que moi, je pensais que c'était normal qu'il y ait dans ces endroits-là. Là.
Mais ce qui ressort de ça, c'est aussitôt que tu ressens un inconfort à la base, c'est pas normal. Parce que, tu sais, si t'es dans un processus de massothérapie, là, moi, j'ai la même depuis un bon moment.
Mais moi, j'ai eu un inconfort, mais je me considère pas comme agressé. Quand elle m'a massé les fesses, là, certains points sur les fesses, j'ai eu un inconfort parce que techniquement, il y a ma blonde qui touche à mon péteur, puis c'est pas mal tout. Là, la massothérapeute, je connais pas, moi, son métier. Mm-hmm. Fait qu'elle est arrivée avec ses mains, ses pouces, puis elle m'a joué à des places sur le péteux qui faisait en sorte qu'elle avait l'impression que ça allait me faire du bien. Mais j'ai eu un malaise,
moi. Oui, mais là où il y a erreur, je te dirais, dans ce cas-là, c'est le fait de ne pas prendre ton pouls et ton consentement. T'sais, moi, quand je vais chez ma masso, j'ai une petite feuille là, que je remplis. On discute avant que je me mette sur la table à moitié tout nu d'où j'ai mal, de ce que j'ai des inconforts de certaines places où peut-être elle pourrait potentiellement me toucher. Parce qu'il faut dire qu'il y a des endroits... T'sais, par exemple, les pectoraux, donc au niveau de la poitrine pour la femme, puis le péteux, comme tu dis, là, les foufounes, là, où il y a des muscles, des nerfs qui passent là, qui peuvent vraiment te faire du bien, mais à ce moment-là, c'est une partie relativement intime, puis t'es vulnérable sur la table dans cette pièce-là. Fait que le massothérapeute est censé te demander ton consentement. Ben oui. Tu sais, je veux dire, tu vas dans les spas, dans les institutions, normalement, t'as toujours un formulaire à remplir. Toujours, toujours, toujours. Puis je veux dire, à mon sens, nous autres, on a notre bout de chemin à faire si on était confortable de le dire, mais je veux dire, le massothérapeute ou la massothérapeute a son bout de chemin à faire. Logique de pas toucher certaines parties du corps si t'as pas demandé auparavant.
Ouais.
Ça me semble, c'est logique.
Est-ce que les massothérapeutes femmes l'ont plus facile que les massothérapeutes hommes?
Bien là, il y a une statistique que Judith nous a partagée hier, puis c'était comme plus de 80% des massos sont des femmes. Puis le problème, majoritairement, c'est avec les hommes, malheureusement, que ça se produit. J'ai envie de te dire que c'est déjà arrivé que des hommes se sentent inconfortables, puis le disent probablement, mais le problème dans tout ça, c'est que tu peux être massothérapeute demain matin. Dans le sens qu'il n'y a pas de règles, dans le sens qu'il n'y a pas d'ordre professionnel non plus.
Mais il y a un cours qui se donne?
Il y a des cours qui se donnent, mais ça peut être une formation que tu prends, tu comprends, c'est Internet à un certain point. Là. Il y a des gens qui deviennent massothérapeutes du jour au lendemain. Je pourrais demain matin abandonner la radio, puis dans un mois et demi, j'ai une table chez nous, puis je fais ça à domicile, puis j'ai ma clientèle. T'sais, t'as pas besoin de certificats ou de... Il y a des gens qui peuvent être massothérapeutes à domicile sans plus de formation que ça. Puis comme il y a pas d'ordre, c'est super difficile, si t'as un inconfort, d'en parler. Puis hier, on a jasé justement avec Judith de ça, à savoir, ben là, comment ça fonctionne, parce que il y a plein de groupes, il y a plein d'associations, mais rien de réglementé. Puis le contexte dans lequel ce métier-là se pratique, ben c'est un contexte qui est vulnérable. Fait que ça devrait être... pourtant une pratique où il y en a un ordre. Fait qu'étant donné que c'est difficile de mettre des limites puis des barrières, Yann, ben en cours, quand quelqu'un décide de se lancer, ça devient la parole de l'un contre la parole de l'autre, ce qui est comme super difficile. Parce que c'est dur après ça de déterminer est-ce qu'il y a eu infraction criminelle ou pas. Là, je lisais, puis le tribunal évalue plusieurs choses pour être capable de mettre ça en ordre. Mettons que toi, tu as eu un inconfort, là, puis que tu déciderais que tu t'en vas en cours okay. avec ça.
Mais
là.
Je veux juste revenir sur ce point-là. J'ai eu un inconfort parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un massage.
Ouais.
C'était la première fois que j'allais me faire masser. C'était un certificat cadeau qu'on avait eu.
Je pense que c'est pas normal, par exemple.
On a décidé d'y aller. Mais si elle m'avait expliqué, exemple, est-ce que t'as des points au niveau des fesses où je peux aller, tu sais? Ben je comprends que je peux te donner la permission d'y aller.
T'sais. Mais ça, la connaissance de l'absence de consentement, ça fait partie des choses qui sont évaluées en cours. Fait que mettons là, que toi, là, tu décidais, là, puis je te mets dans une position pas correcte, là, mais mettons que tu décidais que tu t'en vas en cours avec ça. Ben ça ferait partie des choses qu'on observerait. Il y a plusieurs affaires. Est-ce que les attouchements étaient volontaires? Ça fait partie des critères qu'on garde. S'il y a eu une connotation sexuelle au contact, l'absence de consentement fait partie de ça aussi. L'intention, évidemment, puis la connaissance de l'absence, justement, de consentement. C'est-à-dire que la personne qui te masseur a pu se faire taper ses doigts pour ne pas t'avoir averti qu'on allait, bon, masser, par exemple, le fessier. Parce que c'est des pratiques qui se font, encore une fois, là. Tu sais, moi, je vais voir ma chiro, puis je veux dire, j'ai des gros points dans le dos, ça arrive qu'elle va descendre plus bas parce qu'il est là le nerf, mettons, à taponner. Là. Je connais pas ça, là. C'est mais pas ma pratique, mais totalement. Fait que ça devrait faire partie de la façon de fonctionner. Parlons-en justement de ces limites-là, de ces façons de fonctionner-là quand tu as un inconfort, étant donné qu'il n'y en a pas d'ordre. Je vous laisse écouter Judith sur les explications par rapport aux associations, puis la difficulté à se défendre aussi.
Souvent, avant d'être une agression sexuelle au criminel, c'est des gestes déplacés. Mais ces gestes déplacés-là, ils doivent être dénoncés aussi. Puis avec les ordres, c'est facile de le faire. En massothérapie, quand une plainte est logée contre un massothérapeute qui appartient à une association quelconque, puis il y en a une vingtaine à peu près d'associations, parce que c'est pas ça non plus, c'est pas réglementé, ben la plainte a continue, puis elle est analysée, puis elle est enquêtée seulement si le massothérapeute est d'accord. Donc si une plainte est logée contre lui, lui il peut juste faire ah ben moi je participerai pas à l'enquête, bye. Donc c'est terminé. On va pas plus loin que ça parce qu'on peut pas.
C'est
puis
ridicule.
Si, mettons, l'association, là, elle embauche un masso, puis il y a, je sais pas, une dizaine de filles qui ont fait ils ont fait un petit flag, puis ont dit « Ouais, celui-là, pas sûr, je me suis mal sentie. » Puis eux autres, ils le savent, ils ont cette information-là, ils peuvent même pas la partager avec d'autres employeurs ou des personnes qui appellent pour se renseigner sur ce massothérapeute-là, parce que ça relève de renseignements privés et confidentiels.
Ça s'est mal organisé.
Ben, c'est vraiment mal fait.
Est-ce que dans un établissement où on donne ce service-là de massothérapie, est-ce que l'établissement, l'entreprise peut se permettre de dire au massothérapeute ou à la massothérapeute, est-ce que tu as un dossier criminel? On aimerait avoir, est-ce que tu nous permets de vérifier si tu en as un dossier
mais,
criminel?
Malheureusement, je pense que c'est du cas par cas.
Mais il doit y avoir plus de surveillance dans ces établissements que dans une maison privée. Puis, tu sais, c'est peut-être moi qui est un peu...
Ben moi, tu vois, au contraire, le seul inconfort que j'ai vécu par rapport à la masso dans ma vie, c'était dans une institution.
OK.
Là.
Puis tu vois, moi, mon réflexe, c'est, ben je préférerais que ma conjointe aille dans une institution où il y a plein de monde.
Mais je t'amène...
Versus chez un gars ou chez une fille où tu sais pas trop qu'est-ce qui va y arriver.
Je t'amène une autre vision, par exemple. Puis encore là, je sais pas pour dénigrer quoi que ce soit, mais quand tu vas en établissement, malheureusement, c'est à l'heure, hein? Faut que ça aille vite. L'argent rentre de cette façon-là. C'est-à-dire que tu as une heure, puis dans ton heure, là, remplir le formulaire, ça fait partie de cette heure-là. Le fait que ton massage ne dure pas tout à fait une heure, mais tu n'as pas la grosse conversation avant de te mettre sur la table à moitié tout nu. Moi, j'ai décidé d'aller au privé, d'aller vraiment chez quelqu'un. Parce que quand j'arrive, elle prend une heure et demie, des fois deux heures avec toi si besoin est pour comprendre exactement c'est quoi le problème. Tu veux-tu te détendre aujourd'hui ou c'est vraiment une question de traitement? On remplit ce 10 formulaires-là ensemble. On prend le temps d'établir un contact de confiance qui fait que ça ne me dérangera pas de me mettre tout nu sur ta table. Parce que majoritairement, il y en a qui vont garder des culottes, là, mais dépendamment du traitement et tout, souvent...
C'est à poêle.
Mais oui, mais en tout cas, moi, ça a toujours été ça. Puis c'est une technique après ça de pliage de couverte, puis elle te l'explique aussi. Là, je vais lever la couverte comme ça, ça se peut que tu sentes le fret, inquiète-toi pas, je la lève pas plus haut que ça, tu sais. Puis il y a beaucoup de discussions, fait que moi, c'est ce que j'apprécie d'aller chez quelqu'un. Bon, là, faut que tu trouves ta personne, il y a des crottés partout. Mais, je veux dire, il y a des crottés aussi en établissement, là, dans le sens que moi, l'inconfort que j'ai vécu, c'était vraiment quand j'étais allée dans un spa qui est même pas dans la région. Puis le point, c'est que j'avais pas eu aucune discussion avec la personne avant, puis j'ai été surprise parce que il y a eu du massage sur les côtés des seins, tu comprends, elle descendait un peu plus bas. Il y a les pectoraux, là, ben écoute, ça faisait du bien en tant que tel, mais moi, on n'avait jamais descendu aussi bas, puis un peu comme tu disais tantôt, moi, là, le pare-choc qui est à mon chum, il y a personne d'autre qui y touche. C'est surprenant. J'ai dit, été inconfortable. Puis je me suis sentie agressée, pas du tout. Mais le point, c'est que ça amène quand même la réflexion de te dire, ah, il me semble s'il m'en avait parlé, j'aurais pu dire, ben oui ou non. Là,
puis là, ça enlève comme tout le doute. Là.
Ben oui, c'est ça. Après ça, je veux dire, ça se défend très bien, ça, là, en cours. Ça, c'est arrivé, d'ailleurs, il y a quelqu'un en cours, un massothérapeute qui a été acquitté un peu plus tôt cet été. Une patiente y reprochait massage des seins, justement, auquel elle n'avait pas consenti. Puis l'homme a prouvé en cours que la technique qu'il avait utilisée, c'était une pratique qui était super connue, quelque chose qu'il faisait avec d'autres patients. J'imagine qu'à travers les témoignages, tout ça a été prouvé. Mais le juge a déterminé qu'il n'y avait eu aucun manquement dans sa pratique puis qu'il avait fait les choses comme il faut.
Encore là, il l'avait pas demandé avant.
Non, mais ça, c'est peut-être le problème aussi. Là. Fait qu'il y a toujours un doute qui peut peser sur l'intention. Évidemment, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre.
Puis ça revient à ce qu'on se disait tantôt en préparation de l'émission. Tu sais, des fois, tu fais quelque chose que tu as toujours considéré normal.
Correct.
Tu dis, ben, je fais rien de mal. Puis là, il y a une personne qui n'a jamais vécu cette expérience-là qui va se présenter devant toi. Tu fais la même chose comme tu as toujours fait, puis elle va avoir l'impression qu'il y a quelque chose de pas correct qui s'est passé. Puis là, ben, dans son cas à lui, ça, il s'est fait arrêter probablement. Mm-hmm. Là, s'il y a eu des accusations nécessairement, il s'est fait arrêter. Après ça, le DPCP est rentré dans l'aventure. Oui, on peut poursuivre cet individu-là. Puis pauvre, tu te ramasses en cour et là, tu dois te défendre pour les actes que tu as commis. Mais comme tu l'as dit, le secret, c'est le questionnaire avant. Là.
Oui, puis ce que je trouve plate dans ce cas-ci, c'est que la massothérapie, ça devrait être de plus en plus connu pour les bienfaits que ça a. Parce que mine de rien, c'est un service de santé. Moi, pour des problèmes de dos que j'ai eu, c'était combinaison chiro-masso, puis ça fait des miracles. Fait que ça devrait être reconnu, donc être réglementé. Puis un ordre, ça pourrait peut-être être pratique. Puis tu vois, j'ai fait des appels ce matin parce que j'étais quand même curieuse de savoir si j'aurais peut-être des réponses éventuellement. J'ai voulu parler avec l'Association des massothérapeutes du Québec. Il y en a plusieurs associations, il y en a comme une vingtaine, là, mais celle-là est quand même reconnue. J'ai pas eu de réponse puis de retour d'appel, mais je me demandais c'était où justement. Est-ce que c'est difficile de créer un ordre? Tu sais, moi, j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Là. On parlait avec un paramédic hier matin, là, David Ouellette, puis c'est le même problème. Pas d'ordre non plus pour reconnaître puis réglementer la pratique. Fait que tu te dis, c'est-tu parce que c'est compliqué avec le gouvernement? Comment ça se crée un ordre? Écoute, j'ai aucune idée. Puis si on revient, je vous en reparlerai. Mais ça devrait, bref, être plus encadré. Parce que malheureusement, ça tâche le métier aussi. Tu sais, là, tu te dis, OK, c'est quoi, n'importe qui peut devenir massothérapeute? Pas de problème. Puis fait que je trouve que ça tâche l'image des massos. Puis on s'entend pour dire que la majorité font une sacrée belle job, là.
Non, puis, tu sais, je me suis demandé, est-ce que je me ferais masser plus par un gars, par une fille? Pour moi, ça n'a pas comme d'importance. Tu sais, je ne suis pas un adepte des salons de massothérapie et tout ça, mais les conjoints que j'ai eu dans ma vie ont toujours préféré des gars en raison du fait qu'ils massent plus fort.
Ah ouais, hein?
Ouais.
Ah, tu vois, moi, j'ai eu une fois un homme comme massothérapeute. J'ai trouvé ça délicat. On m'a demandé si ça me dérangeait. C'était dans un spa. Puis, honnêtement, j'ai hésité, puis je me suis dit, oh, t'es bien niaiseuse. Ça changera rien. Il dit, oui, c'est pas grave.
Mais tant que la job est la même.
Ben oui, ça a été un super bon massage, très professionnel. J'ai vraiment apprécié l'expérience, mais c'est comme si, malheureusement, on a comme un jugement d'avance. Là, moi, j'ai toujours été plus confortable quand c'était une femme qui me massait. Je peux même pas te dire pourquoi. Ça me tente de pas pouvoir t'expliquer pourquoi. Je me suis fait masser par un homme ce jour-là, puis ça a super bien été. Là. Puis c'était parfait. Là. Mais vraiment, il y a quand même un réflexe de me dire, ben, je sais pas. Là,
Mais as-tu l'impression que le gars, en te massant, il va avoir une érection? Là?
Ben non, mais c'est plate ce que je vais te dire, Yann. Sauf qu'après ça, t'entends
des
cas comme
ça. Parce que la
fille
peut être lesbienne, puis elle est aussi allumée. Là.
100%. T'as totalement raison. C'est pour ça que je te dis, c'est même pas quelque chose que
j'étais
je peux t'expliquer, c'est
combat.
Un feeling. Ah, mais c'est comme il y a des hommes qui préfèrent, j'imagine. Non, vous autres, c'est ça qui est bizarre, hein? J'ai rarement entendu, par exemple, des hommes dire, ah, je préfère être touché par un homme.
Ben, il y en a, là. Ils ont le droit, là.
Oui, bien, 100%. Mais
moi, c'est pas mon équipe, là.
Non, mais dans le sens. C'est pas une question d'équipe, Yann, voyons, moi, c'est fini. Tu gâches toute la crédibilité de cette conversation.
Eh oui!
Pas moyen de rester sérieux. Non, mais hein? Comme il y a des femmes qui préfèrent avoir une gynécologue femme, il y en a qui sont pas à l'aise d'avoir un homme qui pourtant peut faire une aussi belle job. Là. Et le pire, honnêtement, là, à toutes les femmes qui nous écoutent, là, les hommes sont plus délicats que les femmes. Probablement par peur, j'imagine, de faire mal. Vous connaissez moins l'engin qu'on a entre les jambes, j'imagine. Là,
oui, c'est
mais,
pas ça. C'est l'attricure dans laquelle vous mettez vos jambes. Là,
c'est épouvantable.
Que j'ai vu une fois dans ma vie, je me suis dit, « Hit, tabarouette, t'es exposé. Hein. »
C'est une affaire de torture. Et puis le pire, c'est quoi? Tu dis que t'es exposé. Le plus gênant, c'est quand t'es en jaquette là, de petit papier. Là.
Ouais.
Et là, tu t'installes puis tu mets tes pieds dans les étriers. Là. Tu te sens au vent, tu te sens pas confortable et on te dit, « Avance tes fesses. » Fait que là, il faut que tu mettes tes fesses sur le bout du banc. T'es, ah mon Dieu, que c'est pas chic. Position
là,
grenouille, là.
Ou elle, il voit tout le stock.
Ah, mais il voit tout. Et tu sais quoi
secret.
Le pire? Ils te mettent une caméra pour que toi ici, tu vois. Et là, t'as le choix de regarder l'écran qui est à côté de toi ou pas.
Ouais. Et quelqu'un proche de moi qui a subi. Tu sais, faut que tu rentres la caméra dans le trou
dans
de pète.
Oui, dans le derrière.
Comment ça s'appelle?
C'est une coloscopie.
Colonoscopie. Je pense que c'est ça.
Colonoscopie.
Mais bref. Il a subi ça. Puis effectivement...
C'est vraiment une coloscopie, oui.
Tu peux voir la caméra, puis tu peux voir tes fondements, là.
Oui, non, mais tu vois tout, puis il te met... C'est bien en même temps, il y a des gens qui s'arrassent.
Peux-tu demander la cassette après, ouais?
Ben là, franchement, je pense pas. Moi, ça m'angoisse. J'aime la vision que j'ai d'ici. De...
Ouais.
Oui, de de mon appareil. J'ai pas besoin de voir l'intérieur et le. Mais les hommes sont pas mal plus délicats justement parce qu'ils savent pas ce que ça fait. Ouais. Moi, les pires expériences, ça a été avec des femmes, ironiquement. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le fait qu'elles sont plus à l'aise. Elles savent où elles s'en vont. Fait que. Il y a moins de délicatesse, mais...
Puis des fois, tu te rends plus compte que t'es gynécologue. Tu sais ce que t'as à faire, tu fais tes affaires, puis oui. Tu te rends plus compte que t'es avec un être humain.
Mais ça, je trouve ça épouvantable. Puis c'est drôle, hein? Ça fait peut-être 2 ans, il y avait eu des dossiers là-dessus, puis des articles sur des procédures gynécologiques qu'on faisait à frette, puis à quel point, justement, il y avait un manque de douceur dans ces procédures-là. Puis excuse, Yann, là, mais ça devient traumatisant, là. C'est parce qu'au-delà d'être dans les étriers, là, je veux dire, le spéculum qu'on rentre, là, pour vous imaginer, les gars, la paire de ciseaux, pour t'ouvrir ça comme du monde de bord en bord, puis avoir accès à la taverne, là, c'est pas confortable, là. Fait que quand c'est mal fait, c'est parce que tu restes avec ça en tête puis t'as peur à la prochaine fois.
Il n'y a pas de monde dans la taverne?
Idéalement, il n'y a pas d'autres corps vivants.
JP qui nous écrit, il dit « Regardez, j'ai dû regarder ma vessie pour des masses avec un médecin. » Et oui, effectivement, ils ont utilisé une caméra. J'avais une belle télé 4K à côté de moi pour regarder tout ça.
Mais le pire, c'est que c'est intéressant dans la mesure où tu vois des affaires que tu ne verras jamais dans ta vie. Là.
Ouais. Moi, la naissance de mes gars... Je voulais être comme du bord du médecin.
Oui, tu voulais voir.
Dans le premier cas, c'était une dame. Dans le deuxième cas, c'était un homme. Puis ça a pris comme 10 secondes. Je me suis dit, non, je vais regarder comme le même angle que la mère.
Oui.
Ouais, je veux voir la même affaire.
Tu voulais pas voir finalement le processus?
J'ai vu une partie du processus, mais non, c'est pour les gens qui ont vu ça, je pense qu'ils...
Ça t'a-t-il étourdi si tu passes ça t'écœurait bien raide ou c'est que tu voulais pas garder cette vision-là?
Je voulais pas garder cette vision-là.
Ah ouais, hein?
Ouais.
Hey, c'est particulier.
Ouais. Là, on est un peu too much, mais peut-être que je vous en dirai plus.
On en reparlera. 88-900-1021.
Tu sais, on parlait de Léopold Dion tantôt avec Maître Guy Bertrand. Ouais. Okay? Puis tantôt, tu me parlais de chiropratie, puis tu me parlais de massothérapie pour régler un problème que toi, tu avais. Connais-tu l'origine des chiropraticiens?
Non. Hey, en tout tranché, je me suis jamais posé la question.
La chiropratie existe depuis à peu près, je te dirais, fin 1800. Là. Ouais. C'est quelqu'un aux États-Unis qui a parti une formation pour être chiropraticien. Lui, c'était un ramancheur. Il essayait de te réaligner. Mais les ramancheurs, il y en avait au Québec avant les chiropraticiens. Là.
Ben c'est, en fait, ouais, mais c'est le ramancheur puis chiro, c'est la même affaire. De ce que je comprends, la pratique a évolué. Maintenant, ils massent aussi. Ils font pas juste craquer.
Ça s'est ramassé à l'université. Il y a eu des études qui ont été faites pour améliorer leur technique. C'est devenu des chiropraticiens. Mais il en reste encore dans certains villages, des ramancheurs. Ben, les ramancheurs, c'était des bone setters. Puis bone setter, c'était le bonhomme setter.
Arrête donc,
chez les Québécois qui ne parlaient pas anglais, c'était...
Ben, moi, j'avais le bonhomme setter quand j'étais petite.
Bonhomme
mais
setter, oui, mais parce que quand ils ramanchaient, t'entendais les gens crier.
Parce que ça craquait, ça faisait mal. Fait
que ça faisait peur aux enfants. Mais moi, Léopold Dion, centre-ville de Québec, c'était lui le bonhomme setter.
Ah ouais, les parents utilisaient ça?
Ben oui, mais Léopold Dion était déjà mort à l'époque. Mais pour nous, c'était le monsieur...
qui avait tué des enfants.
Qui avait tué des enfants.
Et seigneur.
Parce qu'il était en dehors à 7 heures. Aujourd'hui, ça, on connaît l'histoire de Léopold Dion, puis on a vu les documentaires et tout ça. Ça n'a aucun rapport avec 7 heures. Mais le bone setter, c'était le bonhomme setter.
J'avais aucune
québécois.
Idée. Et pourtant, ça partait quand même de quelque chose de bon quand tu y penses.
Ouais.
Oh, ouais, hein?
Mais imagine-toi, c'était des techniques qui étaient enseignées. Eux, ils considéraient ça comme des dons. Là. C'était un don qui se transférait de père en fils. Ouais. Fait que le gars, il arrivait, il n'avait aucune connaissance médicale. Regardait ton épaule, t'avais mal. Ouais, hein. Prenait ses pieds. Crac!
Aïe, aïe, aïe.
Puis t'étais supposé d'être correct.
Eh! J'en savais pas, c'est super intéressant.
Je sais pas si ça l'a aidé ou si ça l'a empiré.
Mais là, c'est fondé ce que tu nous racontes là, c'est pas de la bullshit là.
C'est un peu comme l'histoire que je t'ai racontée tantôt pour ce qui est du fétichisme des pieds. Je pensais que ça avait un rapport avec l'enfance. Finalement, t'as vérifié. Puis effectivement, il y a une petite partie qui a rapport avec l'enfance.
Non, attention!
Le bonhomme setter puis le bone setter fut une époque où c'était la même personne.
Puis ça, c'est un fait.
Dans ma tête.
Ah, bon, là, à vérifier.
418-971-1021. Faites vos propres recherches.
Ouais, c'est ça que je vais faire.
T'es un fan de podcast? T'es un fan de... Ah, oh, c'est simple. All I want to do is to fly away with you. Boulevard. On prend ça relax. On se laisse bercer par le bon rock, puis on laisse nos animateurs vous divertir.
Comment t'appelles ça, là? Ça a plein de dents, c'est un gros bec.
Ça a plein de dents, puis un gros bec.
Ben oui,
comment on est supposé?
Tu cherchais le crocodile.
Plein de dents, puis un gros bec. Tu cherchais crocodile.
Ouais.
Le mix parfait, comme... Sushi, vin blanc, Black and Decker. Parker, Pipi et Geneviève. Ouais, bon, vous avez compris. De toute la gang de Boulevard 102.
Je vais vous montrer les dessous ce matin, c'est chaotique.
Bon été. Open mic. L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot.
Ah, Madame CV s'en vient dans les prochaines minutes pour m'accompagner pour Marceau le midi. Audrey devrait nous quitter dans les prochaines secondes.
Mais oui, on va se retrouver à 14h.
Ouais, gros show avec Denis tantôt.
Oui, c'est toujours une surprise. Hein. On vous le dit souvent, la préparation, nous autres, n'est pas très complète. Mais il y a Alex Leblanc qui va venir mettre un peu de sérieux dans tout ça, certainement, cet après-midi.
Je te dis salut et à demain.
Oui, on se dit salut et à demain.
Hey, pense à tout ça, le bone setter.
Oui, je... Hey, mais c'est-tu quoi, vérification faite? T'as bien raison.
Le fétichisme du pied.
Oui.
Vous saviez.
Ça, je me bats encore pour dire
ça par rapport. Je pense que sa plus grande des surprises, ça va être que je t'ai appris quelque chose.
Oui, oui, vraiment, absolument. Je te lève mon chapeau. J'espère que tu m'en apprendras d'autres demain, mon ami.
Je vais saigner du nez, mais oui.
Les attentes sont hautes, ouais, là. Hey, passe-en une bonne. CV, elle s'installe.
Salut, bye-bye.
Salut. Il y a de ça une coupe d'années. Puis j'ai des messages, j'offre peut-être un baccalauréat.